7h30 à Paris, 1h de moins en temps universel. Merci d'écouter RFI. C'est l'heure du journal. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Andréane, bonjour à tous. Et à la une ce matin, l'Est congolais avec un maintien et une annulation. Le maintien, c'est celui d'un concert de solidarité aux victimes du conflit dans la région. Événement organisé à Paris le 7 avril prochain et maintenu à cette date, malgré les protestations venues notamment du Rwanda et de sa diaspora. Et l'annulation, c'est celle d'une mission d'experts de l'ONU qui aurait dû se rendre à Goma cette semaine. Mais le M23, le groupe armé qui occupe la ville, a annoncé qu'il ne viendrait pas. Pourquoi cette annulation? Que devaient faire ces experts? Explication dans un instant. Dans ce journal également, la réponse du Tchad, N'Djamena, condamne des propos, je cite, irresponsables, après qu'un général soudanais a affirmé que les aéroports de la capitale tchadienne et d'Amjaras étaient des cibles légitimes pour l'armée soudanaise. Le Sénégal et le FMI, le Fonds monétaire international, qui confirment que l'administration du président Macky Sall a bien caché une partie de la dette du pays. Et puis le football, pas moins de 15 matchs prévus aujourd'hui dans le cadre des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. On suivra notamment les performances de la RDC, du Cameroun ou encore du Nigeria. À 2 semaines de l'événement, les organisateurs, assurent que le choix de la date n'est pas politique et la maintiennent pour ce concert Solidarité Congo organisé à Paris le 7 avril prochain. Solidarité même plus précisément avec les populations et en particulier les enfants victimes du conflit dans l'est de la RDC. Mais le 7 avril, rappellent les autorités rwandaises et les associations de la diaspora qui craignent des amalgames, c'est aussi la date qui marque chaque année le début des commémorations du génocide des Tutsis. Précision et explication avec Guillaume Thibault.
Sérénité, c'est le mot d'ordre affiché malgré la polémique née du choix du 7 avril, malgré les pressions des autorités rwandaises et françaises qui souhaitaient un report. Les organisateurs de Solidarité Congo, représentés ici par Elvis Adidjema, le directeur de Sony Music Afrique francophone, plaident la bonne foi et l'impossibilité de décaler.
Effectivement, c'est malencontreux. On était tous d'accord sur le fait que c'était pas du tout volontaire et que l'initiative reste celle qu'elle est, c'est-à-dire d'aider des personnes dans le besoin, des populations dans le besoin. D'autant plus qu'on est ouvert au dialogue avec les associations et on n'a pas de problème particulier par rapport aux revendications de celles-ci.
La principale revendication des mouvements, comme l'association des Rwandais de France, représentée par l'avocat maître Gisagara, c'était justement le report de Solidarité Congo, la reconduction de la date du 7 avril, est donc perçue comme une provocation.
Soutenir les personnes qui sont victimes de cette guerre, c'est une cause noble que nous partageons, mais non à l'instrumentalisation pour en faire une tribune pour inciter à la haine et à la violence contre les Tutsis. Ça, nous l'accepterons jamais.
L'association des Rwandais de France, qui craint des troubles à l'ordre public, appelle la préfecture de Paris à interdire l'événement et estime que le concert Solidarité Congo est un concert de la honte.
Guillaume Thibault, l'actualité de l'Est congolais, c'est aussi cette prise de parole de la société civile de Goma hier, la capitale du Nord Kivu, occupée par les rebelles de la FCM23 depuis bientôt 2 mois maintenant. Message de soutien à l'initiative de dialogue lancée par les évêques catholiques et protestants et demande de démission du président Félix Tshisekedi, décrit comme responsable de la situation dans la région. Vous entendrez dans 1 heure dans le prochain journal Afrique sur RFI, l'un des porte-parole de cette société civile de Goma, la capitale du Nord Kivu, où il était prévu qu'une délégation d'experts des Nations Unies vienne cette semaine, mandatée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Ils étaient censés venir vérifier la bonne application de sanctions internationales, notamment l'embargo sur les armes, le gel des avoirs ou encore des interdictions de voyager. Et en fait, c'est l'AFC M23 qui annonce l'annulation de la visite sans la justifier. Patient Ligodi.
C'est un message tombé au dernier moment, laconique, sans justification précise, si ce n'est la transmutation d'agenda évoquée par l'AFCM23. Le communiqué est arrivé alors que la délégation onusienne était déjà en route pour Kigali, dernière étape avant de rejoindre Goma. Cette mission devait pourtant aborder des sujets sensibles. D'abord, les revendications politiques de l'AFCM23 et les conditions d'un éventuel cessez-le-feu humanitaire. Autre dossier sur la table, les récentes arrestations de combattants des FDLR et d'autres groupes armés dans les régions sous contrôle de l'AFCM23. Certains de ces éléments ont été remis aux autorités rwandaises. Selon les informations des RFI, Les experts de l'ONU s'intéressaient aussi au statut des militaires congolais, des policiers et même des groupes armés qui se sont rendus après les affrontements. Et autre sujet délicat, la gestion des ressources naturelles. Des questions devaient être posées sur la production, la commercialisation et l'exportation des minerais dans les zones contrôlées par l'AFC-M23, notamment à Rubaya. Les experts voulaient savoir aussi quelles mesures sont mises en place pour éviter que des minerais interdits ou non traçables n'entrent dans les circuits commerciaux internationaux.
Et sachez aussi à propos de la République démocratique du Congo que le ministre de la Défense congolais est en Afrique du Sud cette semaine. Pretoria, le principal contributeur de la force de la SADC, cette force déployée dans l'Est congolais dont les soldats sont bloqués à Goma et dont le retrait a été annoncé.
RFI à N'Djamena, 100.2 FM.
À N'Djamena au Tchad où il est 7h35 et où l'avocat d'Olivier Monodji se dit ce matin confiant après l'audition du journaliste par un juge d'instruction hier. Olivier Monodji, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Pays, également correspondant de RFI à N'Djamena, entendu donc par un juge hier, il avait été arrêté au début du mois et il est depuis accusé d'intelligence avec une puissance étrangère. Le Tchad où les autorités ne donnent pas dans la surenchère alors que le Soudan, une nouvelle fois, a pointé le soutien de N'Djamena aux paramilitaires FSR du général Emeti et un général de l'armée soudanaise, le commandant en chef adjoint de l'armée, a même dit ces derniers jours considérer comme des cibles légitimes les aéroports de N'Djamena et d'Amjaras. Déclaration perçue par les autorités tchadiennes comme des menaces explicites. Correspondance de Nadia Ben Mafoud.
Dans un communiqué publié dans la nuit de dimanche à lundi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères tchadien, Ibrahim Adam Mamat, condamne fermement des propos irresponsables, dit-il, qui peuvent être interprétés comme une déclaration de guerre s'ils sont suivis des faits. Plus tôt dans la journée de dimanche, le général Yasser Al-Atta avait déclaré « Nous nous vengerons de Mamat Kaka et nous l'avertissons, les aéroports de N'Djamena et d'Amjaras sont des cibles légitimes pour les forces armées soudanaises ». Fin de citation. Depuis plusieurs mois, Khartoum accuse régulièrement N'Djamena de fournir une aide militaire à ses adversaires, les forces de soutien rapide du général Emeti, ce que les autorités tchadiennes démentent. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a précisé que le Tchad se réserve le droit légitime de riposter avec vigueur à toute tentative d'agression contre le Tchad. Dans son communiqué, Ibrahim Adam Mahamat accuse les régimes soudanais d'avoir tenté de déstabiliser le pays, notamment en orchestrant des rébellions et en soutenant Boko Haram, tout en rappelant que N'Djamena a toujours choisi de ne pas répondre par la violence, avant de déclarer que le Tchad demeure fidèle à sa position de neutralité dans le conflit intersoudanais. Nadia Ben Mafoud, N'Djamena, RFI.
Et à propos du Soudan, alors que l'armée nationale progresse depuis plusieurs semaines dans sa reconquête de Khartoum, ces derniers jours sont marqués par des bombardements imputés au FSR, les paramilitaires du général Emeti, bombardements sur la capitale soudanaise et sur les villes voisines, notamment la ville d'Omdurman. Un pas vers l'apaisement au Mozambique, 6 mois après les élections du mois d'octobre, le président Daniel Chapo et son principal opposant Venancio Mondlane se sont enfin rencontrés à Maputo, c'était avant-hier. Venancio Mondlane qui continue de contester le résultat de l'élection. Les deux hommes donc sont loin d'être d'accord sur tout, mais tout de même, ils ont réussi à s'entendre sur plusieurs points, nous explique Gaël Lalex.
Une rencontre cordiale, civile et fluide. C'est ainsi que Venancio Mondlane a qualifié ses échanges avec Daniel Chapo. Dans une vidéo sur Facebook, l'opposant affirme qu'un accord a été trouvé sur 3 points majeurs. D'abord, la fin de la violence, qu'elle soit perpétrée par l'État ou bien nos partisans à l'encontre de la police et de ceux qui ne pensent pas comme nous, précise l'opposant. Ensuite, des soins gratuits et des indemnisations pour les victimes de la crise post-électorale ainsi que leurs familles. Enfin, la libération des manifestants arrêtés. De son côté, Daniel Chapo a déclaré qu'il fallait mettre un terme à la violence lors d'un déplacement à Lichinga dans le nord du pays. Le président rappelle qu'il est bon de penser différemment. Afin d'en finir avec les crises post-électorales, il promet également d'étudier de possibles modifications de la loi électorale. Cette rencontre suscite en tout cas de l'espoir du côté des entrepreneurs mozambicains. Agostino Vuma, président de la Confédération des associations économiques du Mozambique, espère qu'elle aboutira à un pacte pour la stabilisation du pays. Gaël Lalex, Duplex, Nairobi, RFI.
L'actualité au Sénégal et le Fonds monétaire international qui vient apporter de l'eau au moulin des nouvelles autorités de Dakar. En septembre dernier, après l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye, le Sénégal avait pointé des erreurs dans les chiffres officiels des finances publiques de l'administration précédente. Le mois dernier, la Cour des comptes a affirmé qu'une partie de la dette sénégalaise avait en fait été cachée par les équipes de Macky Sall, ce que vient confirmer aujourd'hui le FMI à Dakar, Léa Lisa Westerhoff.
Il y a eu une décision très consciente, je cite, de sous-estimer la dette pendant les 5 dernières années, affirme Eddy Gemayel à la tête de la délégation du FMI. Un montant délibérément caché qui s'élève à 7 milliards de dollars environ et qui correspond à la différence entre les deux estimations de la dette publique, celle déclarée sous l'administration Macky Sall à plus de 70% du PIB et celle calculée par la Cour des comptes qui se situe à près de 100% du produit intérieur brut. Dans tous les cas de figure, c'est un montant très élevé qui creuse le déficit public du Sénégal et qui a provoqué la suspension du prêt du Fonds monétaire international. Ce prêt ne pourra reprendre qu'une fois que les autorités sénégalaises auront identifié quels mécanismes ont permis de dissimuler la réalité de la dette. Il faut également que des mesures correctives soient adoptées, assure le FMI, pour éviter qu'un tel cas ne se reproduise. Le FMI devra ensuite décider dans les semaines qui viennent si le Sénégal décroche une dérogation ou si l'institution internationale demande à Dakar de rembourser ce qui a déjà été prêté par le FMI avant de reprendre un nouveau programme. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Et le chef de la délégation du FMI est notre invité ce matin. Entretien écouté dans quelques minutes. Après ce journal, on parle avant cela de la lutte contre le VIH-Sida et des efforts mis en danger par la suspension des financements américains. Décision de Donald Trump qui force certains pays africains, concernés en premier lieu et par la maladie et par l'aide américaine, à financer eux-mêmes la lutte contre le VIH. Pour la chef de l'ONU-Sida, Winnie Banyima, ce mouvement devrait encore s'accélérer.
Beaucoup de pays sont engagés depuis un certain temps sous la voie de l'autofinancement de la riposte au VIH. La suspension de l'aide américaine doit servir de signal d'alarme. Ce pays cherche activement des solutions. En Ouganda, par exemple, lors du dernier congrès du parti au pouvoir, le président s'est engagé à combler un vide de plus de 370 millions de dollars laissés par le retrait américain. Je ne vois pas ça comme un manque de volonté. Il faut simplement regarder les besoins, les ressources disponibles et le poids de la dette. Ce pays ne reste pas les bras croisés à attendre d'être aidés, ils se battent vraiment. Quand le programme américain PEPFA reviendra, parce qu'il reviendra, il devra travailler avec ONU-SIDA et le gouvernement et la société civile pour accompagner des véritables transitions vers l'autofinancement. C'est une étape cruciale pour garantir une réponse durable à long terme.
La chef de l'ONU-SIDA, jointe par Christina Okello, enfin entre hier et aujourd'hui. Pas moins de 23 matchs comptant pour les qualifications pour la prochaine Coupe du Monde de football. Parmi les résultats d'hier, la Centrafrique qui arrache le match nul 0-0 face au Mali. Ou encore la victoire du Burkina Faso, 2-1 en Guinée-Bissau. Victoire aussi, nous dit Olivier Pron, du Ghana et de la Côte d'Ivoire.
Tout petit, le champion d'Afrique, mais vainqueur à Abidjan de la Gambie, 1-0, un but de Sébastien Haller dès la 15e minute, le deuxième de ses qualifications pour l'attaquant d'Utrecht. 1-0 au quart d'heure de jeu donc, et puis plus rien, ou presque, pour les éléphants. 5 frappes dans tout le match, 3 cadrés seulement. Les scorpions gambiens, bien plus entreprenants, notamment en fin de rencontre, sont passés tout près de l'égalisation. Mais l'essentiel est fait pour Emers Faye et ses troupes qui, avec 16 points, repassent d'une longueur devant le Gabon en tête du groupe F. Les autres sélections de cette poule semblent trop loin à 4 journées de la fin pour espérer désormais se mêler à la lutte pour la qualification. Le mondial américain, les Ghanéens peuvent sérieusement commencer à l'envisager. 5e victoire en 6 matchs pour les Black Stars. 3-0 face à Madagascar qui les recevait à Al Hoceima au Maroc, doublé de Partey, le gunner, 3e but signé Mohamed Koudous. Le Ghana largement en tête du groupe I avec 15 points. Les Comores pourraient revenir à 3 longueurs en cas de victoire ce mardi face au Tchad.
Comores-Tchad, c'est donc l'un des matchs du jour. On suivra aussi la RDC en Mauritanie, le Cameroun face à la Libye ou encore le Sénégal à Dakar contre le Togo. Dakar, où il est maintenant 6h44. Et vous êtes avec Andréane Mellard pour la suite d'RFI Matin.